Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. Nous sommes enchantés de recevoir Christophe Honoré, le cinéaste, et la comédienne Camille Cotin. Ils viennent nous parler de leur film Chambre 212 qui sort ce mercredi. Hélène Manarino, qui est déjà dans ce studio, va nous dresser le portrait inattendu de Camille Cotin. Et puis dans les indispensables, on va parler des sorties ciné à ne pas rater cette semaine, en plus donc de Chambre 212. Et on va vous présenter un livre étrange, au titre non moins étrange, Manuscrit du Château de ma mère. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel.
C'est votre journal de la culture qui débute avec la chanteuse Jennifer qui, à minuit pile, désormais c'est à minuit pile.
Ah bah tout se passe à minuit.
Le 10, c'est hein, dingue. Moi je dormais. Qui a réservé une petite surprise à ses fans. Enfin, à ses fans qui étaient réveillés.
Exactement. Alors reprenons l'histoire.
Ah oui.
Quand même.
Reprenons ça parce que là déjà c'est fou.
Il faut comprendre. Hier aux alentours de 13h, Jennifer poste sur les réseaux sociaux ce message. Il y a des artistes qui nous font rêver. Alors je vous laisse imaginer quand ils acceptent de partager une chanson avec nous. Seule indication, le titre, on oublie le reste, et à minuit donc, on découvre ça. Mais oui, vous l'avez reconnu, je vois Philippe.
Pas du tout, pas du tout.
Quand même, Jennifer a donc réalisé un duo avec Kylie Minogue.
Comment nous que je reconnaisse Kylie Minogue comme ça?
Bah écoutez, je sais pas, je crois en vos capacités de...
Non, vous me surestimez.
D'oreille absolue.
Non, vous me surestimez.
Alors, ce nouveau single est produit par le célèbre DJ Bob Sinclair. Alors, une vraie surprise hein, que fait Jennifer à ses fans. Et pour ce duo, Kylie Minogue se permet même de chanter, tenez-vous bien, en français. Un petit duo qui est également l'occasion pour la star australienne d'y glisser un joli clin d'œil à son célèbre tube, attention mon accent anglais, Can't Get Out of My Head, en reprenant la mélodie. Bien, on l'a entendu.
Ah voilà, ça y est, je viens de comprendre.
Et puis comme si l'actualité de Jennifer n'était pas assez riche, elle est également nommée dans la catégorie artiste féminine francophone de l'année au prochain Energy Music Awards qui auront lieu le 9 novembre prochain et elle est également en tournée.
On en sait davantage sur l'hommage à Johnny Hallyday qui va se dérouler à l'Olympia le 1er décembre.
Deux spectacles lui seront dédiés, intitulés tout simplement « Un soir à l'Olympia », un à midi et l'autre à 20h. Deux ans après sa disparition, l'hommage co-organisé par Laetitia Hallyday se présentera de la façon suivante. Pas de présentateur, Johnny Hallyday sera aux commandes grâce à une projection de film sur ses différentes performances à l'Olympia. Il y a quand même joué 266 fois.
Ah oui.
Et oui, les fans apprécieront aussi des performances inédites, des interviews. Et comme dans un vrai concert, les titres live seront mixés en direct, un son également comme dans une salle de spectacle, un jeu de lumière. L'Olympia ouvrira exceptionnellement les portes de sa mythique salle de billard où les fans pourront trouver des objets dédiés à l'événement, dont deux coffrets collector, Hallyday Olympia Story en tirage limité. Les billets sont mis en vente sur le site internet de l'Olympia à 13h, donc aujourd'hui, avec des tarifs démarrant à 30€.
Et puis vous voulez ajouter quelque chose sur Céline Dion, si je suis bien informé.
Exactement. Autre ouverture de billetterie à ne pas manquer. Céline Dion aux Vieilles Charrues le 16 juillet prochain. Les billets sont en vente depuis 7 minutes exactement. Donc allez-y, ce n'est encore pas trop tard peut-être, je vous le souhaite. Vite, courez sur le site pour acheter vos places.
Hélène Manarino qui est venue avec son horloge 13h, minuit, oui. 7 minutes. On a les timings de tout. Tout à fait autre chose, quoique non, parce que là aussi ça compte vraiment le temps et le rythme. Un célèbre DJ britannique qui offre une nouvelle version du discours de Greta Thunberg.
Et ce DJ, c'est Fatboy Slim, connu entre autres pour son énorme succès de 1999, Right Here, Right Now. Right Alors, je suis bonne dans les horaires, mais pas les dates. C'est pas 1999, c'est 1990. Voilà, c'est m'excuse. Alors, bon, maintenant, vous prenez ce titre. Maintenant, essayez de l'associer au discours de la jeune militante pour le climat, Greta Thunberg, le 23 septembre dernier. Ce moment où elle accuse l'inaction des dirigeants politiques, les larmes aux yeux, et qu'elle prononce aussi « White here, white now ». Alors, difficile de l'associer à ce titre. Et pourtant, Fatboy Slim l'a fait lors d'un concert au Royaume-Uni. Il l'a samplé, comme on dit. Écoutez.
« We will not let you get away with this. » Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here, right now, right here.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il a respecté cette chose qui a agacé certains et séduit tant d'autres, c'est les sanglots dans la voix de la petite Greta Thunberg. C'est dingue, c'est incroyable.
Et ça passe plutôt bien d'ailleurs avec le titre de Fatboy Slim. Alors c'est pas la première fois que les artistes utilisent les différents discours de la militante. Il y avait aussi un titre, un morceau métal. Bon, c'est une façon de s'engager aussi pour eux.
Voilà, merci beaucoup.
Qu'ils disent.
Merci beaucoup, Hélène Manarino. À tout à l'heure.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans cette partie culture, Philippe, on accueille Christophe Honoré et Camille Cotin.
Une fois n'est pas coutume, j'ai commencé par le garçon. Bonjour Christophe Honoré.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, romancier, plus que prolixe. Vous avez écrit 5 romans, une vingtaine de livres pour enfants, sans parler de mise en scène d'opéra, mais surtout cinéaste. Je vais citer Les Chansons d'amour, Les Bien-aimés ou le dernier, Plaire, aimer et courir vite. Magnifique titre, prix Louis de Luc. Et aujourd'hui sort votre 12e court-métrage, Chambre 212, avec Camille Cotin. Bonjour Camille Cotin.
Bonjour.
Vous êtes la connasse de Canal+, pardon, qui est devenu un film, Connasse, princesse des cœurs, qui a fait plus de 1,2 million d'entrées au cinéma. Vous êtes également l'héroïne de la série 10% et de Mouche. Christophe Honoré, on est mercredi, le film sort là maintenant. Vous êtes anxieux, vous attendez avec impatience et anxiété la première séance de midi pour connaître les chiffres.
Bon, on est un petit peu moins anxieux parce qu'en fait, la première séance à Paris, elle est à 9h et les chiffres étaient absolument au-dessus de nos espérances. Donc on commence à se détendre déjà.
D'accord, vous êtes détendu, j'en profite. J'ai retrouvé une interview un peu ancienne de vous dans le Figaro du 11 janvier, donc en début d'année. Et vous disiez ceci, vous racontiez vos projets, vous disiez « Je vais tourner un nouveau film. Je suis incapable de dire de quoi ça parle. Il s'agit d'une comédie avec Chiara Mastroianni et Vincent Lacoste. » Alors finalement, il y a en plus Camille Cotin et Benjamin Biolay. Par contre, c'est une bonne question, ça parle de quoi ?
Bah c'est, en tout cas, ça essaye comme ça de s'interroger sur le lien conjugal. C'est Chiara Mastroianni qui est mariée avec Benjamin Biolay et Chiara est une femme assez libre en fait. Ça fait 20 ans qu'ils vivent ensemble. Elle se permet beaucoup d'aventures en dehors de leur mariage, convaincue qu'il y a une espèce de contrat tacite entre eux. Et en fait, pas du tout. Un jour, Benjamin s'aperçoit qu'elle le trompe et il s'ensuit une dispute. C'est le début du film en fait où il pense qu'elle est malhonnête en fait et qu'il n'aurait jamais dû se marier avec elle. Ouais. Et elle va décider de quitter le domicile conjugal la nuit, elle traverse une rue pour s'installer dans l'hôtel juste en face de chez elle pour réfléchir.
Jusque là, c'est un film normal. Mais c'est là où ça devient un film de Christophe Honoré, parce que raconter la suite, raconter le procédé, après je demanderai à Camille qu'elle nous raconte son personnage.
Bah, il se trouve que la chambre où elle va s'installer est une chambre un peu magique, que cette nuit est elle-même un peu magique. C'est toujours un peu terrible parce qu'on a Catherine Lara qui arrive tout de suite quand on dit une nuit magique.
J'y ai pas pensé, mince.
C'est quand même l'idée. Et que, alors qu'elle veut s'isoler et être seule, cette chambre va être petit à petit envahie par un nombre de personnages surgis de son passé, notamment son mari lorsqu'elle l'a connu, plus jeune, joué par Vincent Lacoste. Et le premier amour de son mari, justement, qui est la professeure de piano de Vincent Lacoste.
Elle s'appelle Irène. C'est Camille Cotin. C'est qui Irène, Camille ?
Irène, c'est la professeure de piano de Vincent Lacoste, de Richard, qui est interprétée et par Vincent Lacoste et par Benjamin Biolay. Elle l'a connue très jeune.
Ouais.
Il avait 15 ans.
Ouais.
Elle en avait 10 de plus et c'est son premier amour et elle ne l'a jamais oublié. Et quand Maria se demande si elle va rester avec Richard, elle convoque des fantasmes, des fantômes du passé et elle convoque Irène. Qui revient chercher celui qu'elle n'aurait jamais dû laisser partir, selon elle.
Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire ? L'histoire vous a plu ou vous aviez tellement envie de tourner avec Christophe Honoré ? Ça arrive parfois
les
que
deux,
vous auriez,
deux,
vous auriez
deux,
signé, même si c'était
deux,
une histoire de garagiste.
Les deux, non mais les deux, quand on s'est rencontrés, j'étais très heureuse de le rencontrer.
Ouais.
Et c'est vrai qu'après, je ne savais pas du tout ce dans quoi il m'imaginait. Si je me...
bah lui-même ne savait pas, hein, déjà. non mais si j'ai bien compris.
Non mais une fois qu'il m'a remis le scénario, et c'est vrai que je l'ai lu tout de suite et que je tournais les pages, j'étais de plus en plus... exalté.
On va entendre un extrait. Alors, je vais expliquer. Il y a deux Richards. il y a le mari de Maria. Le Richard jeune est interprété par Vincent Lacoste. Le vieux est joué par Benjamin Biolay. C'est leur rencontre. Pour une raison que je ne vais pas raconter ici, le jeune s'est pris un coup de boule. J'en parle un petit peu difficilement. Il a le visage en sang. Dialogue.
Ça fait mal, hein? C'est Maria qui vous a fait ça?
Non, non.
Je vous préviens, c'est la première fois que je parle à un amant de ma femme et je ne suis pas du tout préparé à ça.
Je ne suis pas l'amant de votre femme.
Apparemment, j'ai rien compris, là. Vous ne couchez pas avec ma femme?
Si, si, mais je ne suis pas ton amant.
Bon, déjà, il va falloir faire un petit effort d'élocution, sinon on n'y arriverait jamais à Zrubal.
Je ne suis pas l'amant de votre femme.
Ah, vous n'êtes pas l'amant de ma femme?
Non.
Mais vous couchez avec ma femme?
Oui, avec Maria.
Eh bien, c'est bien. Ça fait plaisir, hein? Je vois que vous foutez bien de ma gueule. Je sais que c'est le sort réservé aux cocus d'habitude, mais moi, je suis pas sûr de prendre la chose très placidement.
Et objectivement, il n'est pas l'amant puisqu'il est le mari, mais le mari plus jeune, mais l'autre ne sait pas. Plus le film avance, plus ça devient barré, il y a un personnage qui déboule. Alors, il ressemble à la marionnette de DSK dans Les Guignols. En fait, c'est votre volonté, ou plutôt la volonté du personnage de Chiara Mastroianni, sauf qu'en réalité, c'est Aznavour, mais c'est pas tout à fait Aznavour, c'est un mec qui l'imite. Christophe Honoré, vous avez fumé quoi quand vous avez écrit ce passage?
C'est vrai que c'est...
Ouais. Et là encore.
Non, en fait, je sais très bien d'où ça vient. Ça vient vraiment d'une pièce de Sacha Guitry qui s'appelle un soir quand on est seul. Et c'est un homme comme ça qui se pose justement des questions. Est-ce qu'il va rejoindre une femme ou pas? Et soudain, il y a sa conscience, sa lucidité, son passé qui s'incarne sur scène. Et c'est des personnages féminins qui arrivent. Et j'avais cette envie-là d'avoir un personnage, une allégorie qui s'incarne.
Ah, ça, c'est une allégorie. Et donc, Guitry aussi, il a la veste panthère.
Oui, parce que forcément, à partir du moment où vous parlez d'adultère, de chambre d'hôtel, de rapport homme-femme, vous voyez, quand même, DSK, ça nous a tous traumatisés, je pense. Donc, c'est une image qui est... C'est intéressant, en fait, de voir comment ça peut marquer un imaginaire commun.
Vous restez avec nous. Vous savez qu'ici, on est une émission culture. Toutes les cultures, chansons pour vous.
Bravo. Christophe Honoré et Camille Cotin sont nos invités dans Culture Média. Et la prochaine séquence, Camille, elle est pour vous. On avait envie d'en savoir plus sur vous, de tout savoir même. Alors, on a demandé à Hélène Manarino de mener l'enquête. Elle fait ça très bien, vous allez l'entendre. C'est votre portrait inattendu qu'on découvre dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Philippe Vandel avec vos invités ce matin, Christophe Honoré et Camille Cotin pour la sortie du film Chambre 212.
J'ai une question à tous les deux. Dans ce film, dans Chambre 212, le personnage Chiara Mastroianni prend une chambre d'hôtel. Elle voit son appartement, mais elle voit aussi son passé. J'ai une question pour vous deux. Je vais commencer par vous, Camille. Si vous pouviez remonter dans le temps comme dans le film, quelle personne interrogeriez-vous et pour lui demander quoi?
Non, mais ce qui est amusant, c'est qu'on tournait justement rue de l'Ambre, dans l'hôtel Lennox en face des Sept Parnassiens. Et c'est un quartier que j'ai beaucoup fréquenté plus jeune parce que je jouais au Café d'Edgar, qui est une toute petite salle. Et il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde, et c'était des jolies années. Et après, j'allais au café d'en face et manger une tomate mozza avec mes copains comédiens. Et j'ai eu une petite émotion justement en quittant la rue de l'Ambre en taxi et en repassant devant ce café, parce que je me disais que si j'avais su à l'époque qu'on allait faire un film ensemble...
Vous n'êtes pas vieille, mais vous êtes vue jeune.
Non, bah c'était il y a 20 ans quand même.
Voilà, ouais.
Enfin, peut-être moins, 16, 17.
Bah, il y a 20 ans, vous étiez en troisième. Christophe Honoré, même chose, si vous pouviez remonter dans le temps, vous demanderez quoi et à qui, rapidement?
Je demanderais... je crois que je demanderais à mon père, en fait, s'il est à peu près fier de moi, tout simplement.
Hélène Manarino?
Oui.
Vous êtes au point?
C'est bon.
Et vous-même, je ne vous demande pas la question que vous allez poser à vous-même, puisque vous avez des choses à dire à Camille Cotin.
Exactement. Bonjour Camille Cotin.
Bonjour.
Alors je suis là pour dévoiler toutes les choses que l'on ne connaît pas encore sur vous. Après une longue enquête, Christophe Honoré, il est temps pour vous aussi de tout connaître de votre actrice. Camille Cotin, vous êtes prêt à tout affronter, vous êtes prête à tout affronter, une personne très volontaire, en toutes circonstances, bref, une warrior de l'extrême parfois. Commençons par les tournages. Vous souhaitez toujours faire les cascades, une doublure est inconcevable, un triple salto du haut d'un pont, facile. Réaliser une cascade pour un film sous des trombes d'eau, facile. Se baigner dans la Seine pour de vrai, pour une pub de marque de luxe, facile. Et même quand ça ne veut pas, vous y allez quand même. Comme la première fois où vous avez essayé le wakeboard. Vous êtes sorti de l'eau, non pas parce que vous avez réussi à vous mettre debout, mais parce que vous ne vouliez absolument pas lâcher la corde. Donc peu importe le style, Camille, vous y alliez. Bref, il faut faire attention parfois. Vous ne vous déplacez qu'en trottinette électrique, mais la première première fois, vous avez fait une chute assez impressionnante. La raison, Wonder Camille a voulu téléphoner en même temps et diriger donc l'engin d'une seule main. Camille Cotin qui recule devant rien, il y a une chose que vous ne pouvez pas, absolument pas affronter. C'est plus qu'une phobie, c'est une obsession et tout ça à cause d'un film. Ce sont les requins. Alors, même dans une piscine, vous avez peur qu'ils apparaissent. Même dans un jacuzzi aussi.
C'est vrai, Camille.
Ça va mieux, mais oui. Je...
Ah, ça va mieux. Non, mais ça veut dire que ça a déjà été vrai.
J'ai un moment chelou. Ouais. Ouais.
Même dans le sud, vous avez aussi demandé à changer la fin du scénario d'un film car vous ne pouviez absolument pas vous baigner dans la mer. Bref, une vraie phobie. Donc, qui va mieux, on est ravis de l'apprendre. Passons à des choses plus douces pour vous. Camille Cotin, vous êtes prête à tout également pour trouver l'homme de votre vie. Enfin, à l'époque, puisque vous l'avez trouvé aujourd'hui. Sur le chemin de l'école, vous vous cachiez au coin de la rue tous les matins. Et vous...
C'est pas la ma sœur, non ?
Ça y est.
Et apparaître d'un
Hélène
coup...
Hélène vient de faire mouche.
Et apparaître quand le garçon que vous aimiez passait justement dans cette rue. Et évidemment... Vous
la
interprétiez
honte.
Le hasard, on l'a tout fait. Hein. Ouais. Le total hasard. Votre maman a monté une troupe de théâtre au lycée uniquement pour vous. Votre rôle, Hélène de Troie, dans La guerre de Troie n'aura pas lieu. Ravie de jouer cette pièce, puisque celui qui joue votre bien-aimé est votre target du moment, sauf qu'il a annulé
qui
la veille.
Qui n'est pas le même que je suivais dans
oui,
la rue.
Exactement. Il y en a plusieurs. Sauf qu'il a annulé la veille de la représentation et il a été remplacé par. Votre maman qui avait décidé de porter une casquette de marin pour l'occasion. Alors Camille, vous êtes prête à tout aussi pour rester dans votre monde et jouer la comédie. Déjà, vous adorez vous maquiller, vous tatouer, mettre des perruques. Et oui, vos cheveux sont considérés comme indomptables par vos proches. Et alors que vous deviez réviser le bac, vous interprétiez déguisé des monologues dans votre chambre. Votre sœur faisait le guet et dès qu'elle entendait des pas, elle criait et hop, vous étiez à votre bureau, très studieuse. Premier jour d'école, votre maman entend des hurlements en pleine nuit. Elle se lève et elle se rend compte que vous êtes en train de mettre en scène vos Barbies pour une scène dramatique. Alors, bonne idée, mais c'était la nuit. Et quand votre maman vous dit d'aller vous coucher, vous avez répondu « Je veux bien que tu me mettes toute la journée en prison, mais la nuit, il faut que je vive. » Voilà, ça mérite d'être clair.
C'est joli comme phrase.
C'est joli. Et puis restons dans la nuit, ça vous inspire. Vous étiez capable de réveiller votre sœur pour faire des spectacles et vous la disputiez constamment parce qu'elle était molle. Mais évidemment, c'était la nuit. Ouais. C'était pas une bonne actrice. Mais plus tard, la nuit, Camille Cotin, c'est synonyme de fête entre amis, des amis que vous surnommez la bandoule. C'est le nom de votre bande. Pourquoi?
Bandoule.
Parce que quand vous êtes rencontrés, tout le monde portait des sacs en bandoulière, donc ça devient la bandoule. Et oui.
C'était un voyage, non. Ouais.
Et
on
ses
a
amis,
le pire.
Ces amis-là, c'est à la vie, à la mort. Camille Cotin, vous n'enviez rien à la bande de Friends ou d'Art Laker à vif. Ces potes-là, vous les avez. Des amis que vous prenez le temps d'appeler soit dans la cage d'escalier de votre immeuble, soit sur le trottoir. Chez vous, non, puisque vous vous transformez en Wonder Maman. Alors les soirées s'enchaînent, car vous ne savez pas dire non. Il vous arrive de vous retrouver avec 3, 4, 5 soirées différentes le même soir et vous les faites toutes. Bon, en revanche, vous oubliez toujours de dîner avant de boire et vous ne faites pas à manger pour les autres.
C'est vrai ça, Camille Cotin.
Car vous êtes capable de rater un plat de pâtes.
Attends, mais on a un dossier déjà. 5 soirées sans manger, vrai ?
Oui, je pense qu'il y a une partie qui... On va pas au bout des détails de ce que ça implique. Mais...
Vous êtes capable donc de rater un plat de pâtes. Alors, vous n'aimez pas cuisiner parce que vous n'avez pas la patience d'attendre la fin de la cuisson. Et puis, des soirées parfois ratées, oui, à Londres, par exemple. Ce jour, vous vous êtes fait cambrioler parce que vous n'avez pas refermé la porte en faisant le mur. Des amis avec qui vous chantez aussi régulièrement. Notamment ce jour où ils étaient tous en train de bosser et que vous avez décidé de pousser 2-3 notes sur ce titre. Alors ça c'est vous, mais vous faisiez aussi chanter votre petite sœur quand elle avait 5 ans. Alors, pas des comptines, mais ça.
Fais-moi mal, Johnny.
Non. Vous savez qu'on vient de faire une émission sur les ravages de la pornographie chez les très jeunes. Hein. 5 ans.
Vous avez même été capable d'emmener votre sœur à l'âge de 8 ans au concert de Niagara. Mais surtout, il y a une chanson que vous maîtrisez à la perfection. C'était la berceuse aussi pour votre petite sœur.
Qu'est-ce qu'est-ce que c'est, Camille, cette chanson?
C'est une chanson de Joan Baez sur la contrefaçon, enfin sur la, le whisky fabriqué en contrebande, c'est ça,
ouais.
Donc elle raconte mon grand-père a fait du whisky, moi aussi, il faut attendre la nuit, la pleine lune, et voilà, toute la chanson raconte comment faire du whisky.
C'est puéril, c'est bien, on est dans le thème.
On parle musique, on écoute des titres, oui, mais Camille Cotin, soyons honnêtes, vous aviez un rêve, être Amy Winehouse, ou surtout cette chanteuse. Oui, Janis Joplin. Alors ça, c'est votre truc, être chanteuse. Alors vous chantez bien, il faut le dire. Vous avez une très belle voix, apparemment. Et je vois que Christophe Honoré dit oui. Alors ce n'est pas trop tard, Camille, et la relève est assurée, surtout quand on sait que votre fille de 4 ans connaît par cœur la grenade de Clara Luciani, apparemment, évidemment. Alors je change de feuille, oui, parce que du coup j'avais un problème de texte. Alors Camille Cotin, longtemps appelée la connasse suite à votre programme court, il était temps de remettre les choses dans l'ordre. Vous avez dû convaincre pendant assez longtemps que oui, vous étiez sympa. Et c'est vrai, alors vous ne faites jamais rien à 10%, vous n'êtes jamais largué dans vos activités. Et surtout pour moi, il y a ce rôle qui vous attend et qui vous correspond, et ça ne fait pas mouche.
Ça vous parle, Camille Cotin, Wonder Woman ?
J'adorais Wonder Woman.
Ah oui ?
Bah oui.
Pourquoi ?
Wonder Woman ?
Bah, non, je sais, bah, elle était c'était tellement mignonne dans son petit short.
Et vous êtes un peu Wonder Woman, non, surtout. Mais,
je m'attendais pas au petit short.
Mais non, Camille Cotin. Parce que je la revois tourner sur elle-même. Et, bah, c'est Wonder Woman avec son lasso d'or qui sauve tout le monde.
Un peu comme Camille Cotin. Finalement.
Exactement, vous restez avec nous. Christophe Honoré aussi est là. Il y aura son portrait attendu.
La suite de Culture Média, c'est dans un instant avec Camille Cotin et Christophe Honoré. On parlera encore cinéma avec Mathieu Charrier et littérature avec Nicolas Carreau sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Le cinéma à l'honneur ce matin dans Culture Média, Camille Cotin et Christophe Honoré sont nos invités et c'est l'heure de nos indispensables du jour. On va parler littérature avec Nicolas Carreau dans un instant. Tout de suite, on continue à parler cinéma avec Mathieu Charrier, Philippe.
Et moi je vais commencer, je vais donner le box-office déjà. Combien d'entrées ce matin, parce que c'est un bon chiffre, ça fait tellement plaisir d'entendre ça, Christophe Honoré.
96.
96 entrées à la séance de 9h et votre précédent record c'était
ouais, 40 je crois, j'ai vraiment été au-dessus.
Formidable, et le Joker.
Le Joker, il doit être à 140, il me semble.
Ouais. Et voilà, l'enchaînement tout trouvé. Mathieu Charrier,
bravo.
Bonjour.
Bonjour.
La sortie la plus attendue de la semaine après Chambre 212, ouais, c'est Joker,
c'est
signé Todd Phillips.
Avec Joaquin Phoenix, donc, qui interprète ce Joker. Alors, je précise tout de suite qu'on n'est pas dans un film de super-héros. Hein. On ne voit pas Batman en costume, par exemple,
ah bon,
même s'il y a une petite référence quand même à l'homme chauve-souris. Mais sinon, le film se concentre surtout sur la folie d'un homme, ce Joker.
Ça vous fait marrer.
Voilà, vous êtes dans l'ambiance.
Ouais.
Clown à 16 heures perdu, moqué, vilipendé, écrasé, abandonné par notre société et qui va sombrer dans la folie meurtrière, entraînant avec lui tout un tas de gens, tout un tas d'oubliés. Il va devenir le symbole d'une sorte d'insurrection, d'une lutte des classes. Joaquin Phoenix, qui interprète ce Joker, a perdu 25 kilos pour le rôle. Il n'a plus que la peau sur les os, littéralement, incarnant cet homme décharné, mal dans son corps, violent. Le film est d'ailleurs interdit au moins de 12 ans en France. L'acteur qui a dû batailler pour interpréter et surtout comprendre son personnage.
Tu sais jamais s'il est vraiment fou ou si c'est lui qui a raison. Je me suis beaucoup interrogé. De toute façon, tout ça s'impose à lui. Que ce soit objectivement vrai ou non. Mais finalement, c'est vous en tant que spectateur qui devez trancher.
Voilà, alors Joker est un film qui nous montre hein, finalement comment notre société peut broyer un homme et engendrer un monstre. Message qui inquiète d'ailleurs les autorités américaines. Aux USA, le film est interdit au moins de 17 ans et l'armée a alerté sur de potentielles menaces lors des projections. Mais là-bas aussi, le film a excellemment bien démarré. Meilleur démarrage dans l'histoire pour un film sorti au mois d'octobre.
Carrément l'armée. Votre deuxième coup de cœur, Mathieu, de la semaine, c'est un film d'animation qui s'appelle La fameuse invasion des ours en Sicile.
Adapté d'un célèbre roman pour enfants écrit par Dino Buzzati, publié en 1945. Alors tout se passe bien dans le monde des ours qui coule des jours paisibles dans leur montagne, lorsqu'un jour, le fils du roi des ours est enlevé par des chasseurs. Évidemment, le roi est très triste, d'autant que la famine menace en raison d'un hiver très rude. Il décide donc d'envahir le monde des hommes et de partir à la recherche de ce fils disparu. Alors, c'est évidemment une histoire assez classique, mais en revanche, le dessin est tout simplement magnifique, coloré. Allez voir au moins l'affiche, vous la verrez dans le métro ou sur Internet, n'importe où. Allez voir cette affiche, Made in France en plus, on peut en être fier, avec derrière tout un tas de thèmes sous-jacents que nous détaille Lorenzo Mattotti, le réalisateur.
Il y a la relation père et fils. Le père qui voit son fils changer, perdre presque la culture des ours et devenir autre chose. Il y a la relation avec la nature et l'homme. il y a la relation entre les animaux et les hommes. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets à l'intérieur qui ne sont pas résolus. Et c'est ce que je trouve intéressant, qu'il parle de la complexité de la vie.
C'est vrai que ce n'est pas un film manichéen, il pose des questions, il n'apporte pas forcément de réponses, c'est ce qui fait toute sa poésie, à partir, je dirais, de 7-8 ans.
Et puis on termine, Mathieu, avec le film Papicha.
Les Papicha, c'est le surnom donné aux jeunes et jolies Algériennes qui font la fête, dansent et séduisent une bonne partie de la nuit. Ce sont aussi les clientes de Nejma, notre héroïne, étudiante, qui à la sortie des cours dessine et coud de jolies robes qu'elle va ensuite vendre à ses Papicha. Le problème, c'est qu'on est au début des années 90, aux prémices de la décennie noire algérienne, avec le poids des intégristes qui augmente, les affichettes appelant à masquer le corps des femmes qui se multiplient sur les murs, et bien sûr, Nejma et ses copines vont vite déranger, d'autant qu'elles veulent organiser un défilé. Papicha est le premier film réalisé par Mounia Medouf qui s'est inspiré de sa propre histoire, film qui trouve évidemment un écho dans les manifestations qui secouent en ce moment l'Algérie.
Et une belle symbolique, notamment sur la position des femmes et la reconquête de l'espace public qui se passe dans la rue à Alger, mais aussi dans le film avec Nejma qui, malgré la situation, continue à travailler pour réaliser son rêve qui est donc ce défilé de mode.
Voilà, Papicha, un film sur le combat et la quête de liberté des femmes qui a reçu le Valois du public, du scénario et de la meilleure actrice au dernier festival d'Angoulême, c'est à voir.
Merci Mathieu Charrier, on va rester Christophe Honoré, Camille Cotin et Nicolas Carreau qui viennent de se préparer, on va parler livres maintenant et cinéma encore.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Chambre 212, nouvelle comédie du réalisateur Christophe Honoré sort aujourd'hui. Il est là pour nous en parler avec la comédienne Camille Cotin. Mais avant, on continue à découvrir nos indispensables du jour. On parle livre avec Nicolas Carreau, Philippe.
Oui, je suis content parce que ce matin, Nicolas, vous allez parler d'un film, un livre que j'ai beaucoup aimé, Le Château de ma mère de Marcel Pagnol.
Bah oui, tout le monde se souvient.
En ce temps-là, j'étais encore un petit garçon, mais j'avais rencontré l'amour de ma vie, les collines de Provence.
Vous voulez que je vous dise ?
Ouais.
J'avais tellement aimé le livre que j'ai refusé d'aller voir le film parce que je ne voulais pas être déçu. Mais pourquoi vous nous en parlez aujourd'hui ?
Parce que les éditions des Saint-Père viennent de publier le manuscrit du livre. C'est leur spécialité. Ils fabriquent des facsimilés, donc des copies exactes, des manuscrits, des grands livres. Et ils ont fait L'écume des jours, Gatsby le magnifique, Le tour du monde en 80 jours, La gloire de mon père. Et voici donc Le château de ma mère, la suite de la biographie romancée de Marcel Pagnol, La province, Les collines, avec Joseph.
Ça, vous le faites bien. Hein.
Je sais pas le faire. Il y a cette fameuse promenade, vous savez, le chemin de la Treille, Bouzigue, qui travaille pour le canal, qui donne à la famille une clé qui permet d'ouvrir les portes des parcs des châteaux. Ça évite de faire un détour. Mais un jour, il y a ce gardien, c'est Jean Carmet d'ailleurs dans le film. C'est dans ce château que le gardien qui les surprend, et donc Joseph, qui est instituteur, est complètement humilié. Il a peur de se faire virer et tout ça. Et puis surtout, la mère, Augustine, a très très peur. C'est un joli passage. Et c'est dans ce château que plus tard, Pagnol aura le projet de fonder une cité du cinéma. Il y a le copain du coin, Lily Desbellon, l'oncle Jules, bref, c'est chouette. Le château de ma mère, c'est aussi, comme le titre l'indique, une belle déclaration d'amour à sa maman.
Mais au-delà du livre, qu'apporte le manuscrit, justement ?
C'est assez génial parce que, contrairement à d'autres manuscrits, celui de Pagnol est extrêmement lisible. Vous pouvez voir, l'écriture est ronde, claire. En fait, Pagnol était un maniaque. Il n'aimait pas les brouillons raturés de partout. Il préférait tout réécrire au fur et à mesure. Ça donne donc un texte écrit à la main. Mais on peut quasiment lire le roman comme ça, regarder le début. Après cette épopée cinégétique, je fus d'emblée admis au rang des chasseurs, mais en qualité de rabatteur et de chien rapporteur. Tous les matins, vers 4h30, mon père ouvrait la porte de ma chambre et chuchotait « Veux-tu venir ?» Ça a d'ailleurs été un travail d'orfèvre pour Nicolas Pagnol, le petit-fils, qui a dû rassembler tous les feuillets épars pour tout reconstituer. Et heureusement, il y a quand même quelques ratures, quelques ajouts. Ça ajoute au charme. On assiste à la création du texte. Par exemple, page 3, on voit qu'il a rayé la phrase « L'aurore éclatait comme une grenade mûre ». Peut-être qu'il a trouvé ça un peu lourd, on ne sait pas.
La couverture est belle aussi, vous êtes venu avec l'objet.
Ben ouais, c'est dans son coffret grand format. Très beau cadeau pour ceux qui aiment Pagnol. Beau cadeau parce que 130€ quand même, mais c'est sublime.
Et puis rapidement, on parle beaucoup d'un autre Marcel aujourd'hui.
Marcel Proust,
ah oui.
Il revient au rayon nouveauté. Figurez-vous, un recueil de nouvelles inédites qui est publié aujourd'hui, des textes retrouvés dans le fond de l'éditeur Bernard de Fallois. Ça s'appelle Le Mystérieux Correspondant. Il devait être intégré au recueil Les Plaisirs et les Jours, donc Proust avait une vingtaine d'années, mais il y a renoncé, notamment parce que les textes évoquaient un peu trop l'homosexualité. Il a eu un peu peur. Et c'est assez incroyable à lire. Il y a un conte de fées, une énigme policière et même un conte fantastique. J'en parle aussi parce que, figurez-vous que j'ai j'ai visité la bibliothèque de Christophe Honoré, qui m'avait confié à cette occasion qu'il aimerait adapter La Recherche du Temps Perdu en format série.
C'est vrai, Christophe Honoré, vous en êtes où ?
Non, c'est juste que je pense que la série pourrait tout à fait convenir à ça, le principe comme ça des saisons qui s'étalent et que le vieillissement des personnages s'accompagne du vieillissement aussi de la série.
Mais vous n'allez pas le faire.
Non, je crois pas.
Madame Figaro vous a demandé quel était le livre qui vous accompagnait, et réponse magnifique de Christophe Honoré, il a dit « Livre qui m'accompagne, c'est À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Ce roman m'a accompagné avant même de l'avoir lu. » Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que pendant des années, je n'ai pas osé lire Proust. Et quand je me suis lancé finalement dans cette lecture, j'ai l'impression que j'avais... Mais je crois que ça le fait pour à peu près tous les lecteurs de Proust. C'est-à-dire que vous avez l'impression que ce livre vous attendait et qu'il a été écrit... que pour vous. Ouais. Et donc, il vous parle tellement de votre vie que en fait, au moment où vous le découvrez, c'est presque comme si vous le redécouvriez.
Il s'est bien comporté, Nicolas Carreau, quand il était chez vous, dans votre bibliothèque pour Europe 1 ?
Oui, c'était dans mon bureau rue Mandard.
Je pose juste cette question parce qu'il y a une séquence géniale de les participants au film s'engueulent sur la manière de bien classer une bibliothèque. Est-ce qu'il faut faire alphabétique ou non ? En un mot, alphabétique ou pas ?
Moi, oui.
Christophe Honoré, sûr, Camille Cotin, comment ils sont rangés vos livres, tant qu'ils soient rangés?
Non, c'est pas rangé.
Je sais pas pourquoi, j'en étais sûr.
Attends, mais comment elle s'appelle la méthode où tu classes par... j'ai oublié.
Même ça non plus, c'est pas classé dans mon cerveau.
Il y a soit alphabétique, soit les...
Dans le mystère Henri Pic, vous les classiez comme ça?
Non, justement pas.
Vous savez quoi, on marque une pause, on vous donne la réponse. A tout de suite, Camille Cotin, on va tout rassembler.
Oui, Camille Cotin et Christophe Honoré. Elle cherche. Reste avec nous pour parler du film Chambre 212 qui sort aujourd'hui. On se retrouve dans un tout petit instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Toujours avec nous Mathieu Charrier et Nicolas Carreau, parce qu'on est bien Philippe dans ce studio Lagardère.
On est très
avec
bien.
Nos invités Christophe Honoré et Camille Cotin qui viennent nous parler de ce film Chambre 212 qui sort aujourd'hui.
Qui est même sorti ce matin. Camille Cotin, comment ça se passe un tournage avec Christophe Honoré ?
Déjà, tous ceux qui ont tourné avec lui avant vous préviennent que c'est extrêmement kiffant de tourner avec Christophe. Je me souviens de cette conversation qu'on avait quand on faisait les essais caméra avec Chiara, puis Vincent, successivement, l'un et l'autre, qui m'ont dit « tu vas voir, c'est génial ». Et c'est vrai.
Et on tourne vite ?
On tourne peu. Moi, je sortais de Mouche où je faisais 8 minutes utiles par jour et ça s'enchaînait. Et en plus, j'étais tous les plans, donc effectivement, je le sentais. Mais là c'était comment dire, extrêmement concentré. On tournait peu de plans dans la journée, mais il y a, je sais pas comment dire.
Fallait être sur le coup.
Ah oui, parce qu'on est en pellicule en plus, donc. Et puis tout le monde est très respectueux du plateau. Ouais. J'avais l'impression que les techniciens, ils étaient en chaussettes tellement ils se déplaçaient. Je te jure, j'ai dû vérifier qu'ils avaient des chaussures tellement ils se déplaçaient comme des chats. Il y avait une concentration sur le plateau qui était vraiment très agréable et qui donne envie de fabriquer cette histoire ensemble.
Ouais. Et je précise pour nos auditeurs, tourner en pellicule, c'est que maintenant il y a beaucoup de films qui se font en numérique, donc on peut tourner. Christophe, je vous demande ça. Je demandais à Camille si elle tournait vite, parce que vous avez dit à l'AFP. À l'AFP, ça rigole pas. Au cinéma, dit Christophe Honoré, j'ai toujours comme principe qu'il faut tourner vite. L'idée de patience est une mauvaise manière de faire du cinéma.
En tout cas, c'est une manière un peu trop solennelle, surtout aujourd'hui. Moi, je crois qu'il faut réussir à garder un esprit de légèreté au cinéma et de plaisir et de joie à le faire. Et surtout pas que ça devienne une espèce de machine qui vous oppresse et où soudain la moindre décision est empreinte d'une trop grosse gravité. Je crois beaucoup que la vitesse en fait donne beaucoup d'énergie et de charme au final dans les films.
Camille Cotin, je vais pas demander si vous avez piqué des chaussettes, mais c'est vrai que vous avez embarqué un petit canapé tiré du décor du film.
Oui, de Jacobsen, je crois qu'il s'appelle.
Je sais pas,
le designer.
D'accord. Et vous l'avez piqué, il est chez vous.
Je l'ai pas piqué, je l'ai acheté.
Ah,
s'il vous plaît.
D'accord.
Merci.
Ah non, parce que j'ai lu, vous étiez parti avec.
On n'a pas parlé de ma kleptomanie dans mon portrait, mais oui, adolescente, j'ai pu avoir des tendances, mais c'est fini, je suis soignée maintenant.
Camille, 10% c'est terminé ou il y aura une quatrième
piquer
saison?
Piquer un canapé, faut le faire. Hein. Je sais pas. Bon, merci beaucoup. Bisous. Excuse-moi.
Vous avez raison. 10%, il y aura encore une quatrième.
On tourne la quatrième saison là, à l'automne.
Et la dernière?
Probablement, oui.
Probablement, on ne sait pas. Il y aura peut-être une cinquième saison.
Non, je pense que ça va être la dernière. Elle est écrite comme telle, donc.
Et sinon, après, vous savez ce que vous allez faire ?
Killing Eve. Avant Killing Eve.
Dites-en plus, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est Killing
Eve. Vous ne connaissez pas la série anglaise Killing Eve ?
Non, je ne connais pas.
Eh bien, vous découvrirez.
Même question à Christophe Honoré. Vous allez mettre en scène ou écrire une pièce qui va être jouée à la Comédie Française, ou est-ce que je me trompe ?
Oui, je l'avais pas du tout. Je l'écris pas du tout, en fait, puisque je propose à la Comédie Française en fait une adaptation justement du côté de Guermantes, qui est un des tomes de la recherche du temps perdu de Proust au printemps prochain.
D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Chambre 212. C'est avec Camille Cotin, mais pas seulement. Je vais citer Vincent Lacoste. Je vais citer Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni.
Eu un prix d'ailleurs à Cannes quand même pour ce film.
Oui. Dites-le. C'était quel prix ?
Elle a eu le prix d'interprétation Un certain regard.
Mais quel bonheur. Merci d'avoir été avec nous. D'autant que les chiffres sont bons. Nous, on se retrouve demain à 9h dans Culture Média. On va parler des podcasts avec Mathieu Gallet, l'ancien patron de Radio France qui lance Magellan. Ce sera pour la partie média. Et PEF pour la partie culture, l'ancien des Robin des Bois. À demain. Salut Céline, salut Mathieu, salut Nicolas, salut à tous.
À demain, Philippe Bandel. Dans un instant, Anne Romanoff arrive avec toute sa bande et leurs invités aujourd'hui, Bruno Gassiot et Sonia Mabrouk.